100% d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Difficile d'échapper à la tornade Matteo Salvini en Italie. Un mois après la constitution du gouvernement, le bouillant ministre de l'Intérieur multiplie les déclarations. Il veut désormais constituer une ligue des ligues en Europe, en référence à son parti d'extrême droite. Après avoir empêché les bateaux de migrants d'accoster en Italie, il propose un recensement pour les Roms du pays afin de pouvoir mieux les expulser. À Rome, Éric Sénanque est allé visiter un de ces camps sauvages où ils se sont installés au centre de la capitale.
Nous sommes à deux pas du Tibre, le fleuve qui traverse Rome du nord au sud, non loin de la gare du Trastevere, l'un des quartiers les plus touristiques de la capitale italienne. Ici, à l'abri des regards, dans une friche industrielle, vivent une trentaine de Roms, hommes, femmes et enfants. Pas de roulotte ou de camping-car que l'on peut voir dans certains quartiers à la périphérie romaine, mais des abris de fortune en bois, en contreplaqué ou en tissu. Aline, 30 ans, et une petite fille de 3 ans, ils vivent depuis 2 ans. Après avoir été pizzaïolo, payé 350 euros par mois et sans contrat, il a voulu changer de travail. Depuis, il est au chômage.
On n'est pas bien ici, la vie est dure. Il n'y a pas d'eau, pas de toilette. On doit aller à la fontaine à côté et récupérer de l'eau dans des bouteilles en plastique que l'on rapporte dans un caddie. Pour vivre, on fait de la récupération. Des chaussures, de la ferraille qu'on trouve et qu'on peut revendre au marché. Et tout ce qu'on en retire nous sert pour les enfants, pour manger. Pour survivre, tout simplement.
On estime que 130 000 Roms environ vivent en Italie, dont près de 40 000 dans des camps informels, comme ici, situés presque au cœur de la ville éternelle. Depuis longtemps, les ONG comme Amnesty International dénoncent ces situations de grande précarité et les expulsions. La plus grande minorité d'Europe est discriminée, ajoute-t-elle, et aucun pays d'Europe n'a eu le courage de prendre des mesures pour faciliter leur intégration. Les récents propos du ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, déclarant qu'il veut recenser les Roms, ont ravivé les inquiétudes. Florenza est venue de la Roumanie il y a 17 ans.
Qu'il vienne, Salvini, voir comment on vit ici. Qu'il vienne pour nous connaître. Tu ne peux pas dire « celui-ci est un Rome, celui-là est noir, lui c'est un Turc et on va les mettre dehors ». Tu ne peux pas dire des choses pareilles. Ce n'est rien d'autre que du racisme. Et pourtant, les gens ont moins peur des Roms. C'est juste lui qui essaie de nous mettre dehors.
Recenser les Roms en Italie est illégal car discriminatoire. Même si les alliés de Salvini au gouvernement italien se sont désolidarisés de cette proposition, le bouillant ministre de l'Intérieur a, semble-t-il, réussi son coup, joué sur les clichés et la peur. Ces gens vivent dans des camps, mais ils ont leur Mercedes qui les attend à la sortie, n'a-t-il pas hésité à lancer après sa proposition. En 2010, le Parlement européen épinglait déjà le gouvernement français de Nicolas Sarkozy et lui demandait de suspendre ses expulsions de Roms. 2 ans plus tard, les États de l'Union européenne avaient présenté à Bruxelles une stratégie nationale d'intégration des Roms qui prévoyait un plan d'accès au logement, mais aussi des accès aux soins de santé ou à l'éducation des enfants. 6 ans plus tard, les objectifs sont loin d'être atteints. Un logement digne ne leur est même pas assuré. L'Europe abandonne les Roms en Italie, déplorait Amnesty International il y a 1 an, dénonçant les expulsions régulières de Roms partout dans la péninsule. Florenza.
Dans les pays de l'Union européenne, on ne peut pas nous expulser comme ça, comme des objets ou des animaux. Même les animaux sont mieux traités que les humains.
Face à l'impuissance des pouvoirs publics et aux discours populistes visant les Roms, un habitant de la capitale italienne qui vit non loin du camp a eu une idée surprenante. Stefano Antonelli est galeriste et pour lui, il n'y a que l'art qui puisse attirer l'attention sur cette communauté. L'an dernier, il a créé dans ce camp Roms un musée à ciel ouvert. Son nom, le musée illégal géré par les Roms. Un nom provocateur pour ce musée totalement gratuit et à ciel ouvert. Ce sont les Roms qui font la visite aux curieux. L'artiste urbain français Seth est venu y peindre une 15aine d'œuvres. Stefano Antonelli nous fait la visite.
Ça, c'est une autre pièce. Elle s'appelle Oculus habent et non videbunt. En latin, c'est « ils ont les yeux pour voir, mais ils ne voient pas ». Et ça regarde directement à la communauté rome et à la beauté qu'on pourrait avoir ici, qu'on n'a pas parce que c'est laissé comme ça. Il y a des débris partout, il y a surtout, c'est une décharge. Ils voudraient porter ailleurs cette décharge, mais ils peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et donc, ils ont seulement amassé et essayé de nettoyer le reste. Ça, c'est le contraire de ce que les gens pensent. Hein. Les Roms, c'est la saleté. Par contre, ici, ils essayent de nettoyer ce qu'ils peuvent nettoyer.
Chaque visiteur de ce Le musée, pas comme les autres, verse ce qu'il peut à la communauté pour admirer les œuvres qui s'effacent peu à peu au gré des intempéries. Dans ce camp de Rome, seuls se rendent les curieux, mais pas de services sociaux, encore moins de politique, aux grandes âmes de ses habitants. En sortant du camp, on tombe sur un panneau, à peine croyable, que nous déchiffre Stefano.
À l'entrée du musée, il y a une affiche qui écrit « Ici vit une colonie féline, une colonie de chats protégée ». Et en dessous, il y a le timbre de la municipalité de Rome, il y a écrit « Le chat à Rome est considéré un citoyen à tous les effets ». Donc, on a cette situation surréelle. Dans cet espace, les chats, ils sont autorisés et sont considérés des citoyens. Les Roms sont pas autorisés et sont pas considérés des citoyens. Donc, les chats, ils sont protégés, les humains, non.
Il y a quelques jours, les associations de Rome en Italie ont écrit une lettre ouverte à Matteo Salvini et Luigi Di Maio, son allié au gouvernement. Jeter la pierre aux communautés roms et les attaquer ne résoudra aucun des problèmes, peut-on y lire. Des associations qui veulent être entendues et proposer des solutions constructives contre la politique de la peur.
Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto.
Et les médias italiens ont trouvé un porte-parole qui fait pendant aux déclarations de Matteo Salvini. Aboubakar Soumaoro est un syndicaliste qui dénonce les conditions de travail des migrants dans les champs d'agrumes de Calabre après la mort du jeune Soumaila Sacco. Portrait inspirant signé Cécile Debarge.
La propaganda live.
Sous les applaudissements du public, Aboubakar Soumaoro fait son entrée sur le plateau de Propaganda Live, l'une des émissions phares de la chaîne La 7.
Alors, Aboubakar est mon leader, mon point de référence absolu. Je lui ai d'abord tout de suite écrit un message après son discours, disant que c'était le plus beau discours de gauche entendu ces derniers mois, et peut-être plus.
Le ton est donné sur le plateau de La 7. Diego Bianchi, le présentateur, fait partie des nouveaux admirateurs du syndicaliste italo-ivoirien. Depuis plusieurs semaines, on le voit partout, sur les plateaux télé, dans les émissions de télévision, récemment en une de l'hebdomadaire L'Espresso qui a imprimé son portrait en couverture face à Matteo Salvini pour représenter deux visions opposées du pays en demandant à ses lecteurs « De quel côté êtes-vous ?». Car depuis plusieurs semaines, Aboubakar Soumaoro est devenu l'un des nouveaux visages de la gauche italienne. Le propos clair et incisif dès qu'il s'agit de défendre les droits des travailleurs et des migrants.
Il diverso
est... Tout ce qui est différent est inférieur. Le migrant est synonyme de précarité, pauvreté, marginalité. Toute cette équation est le fruit d'une pensée qui s'exprime aussi à travers des textes de loi votés au Parlement et qui ont un nom, la loi Bossi-Fini.
Cette loi votée en 2002 sous le gouvernement de Berlusconi durcissait les conditions d'accueil des migrants en Italie. La remettre en cause dans une période politique où le nouveau ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, a fait de la lutte contre l'immigration sa priorité, c'est une prise de position que l'on entend peu au sein de la gauche italienne. À 38 ans, diplômé en sociologie, le syndicaliste italo-ivoirien résume ainsi son combat. Mieux vaut faire un pas avec le peuple que 100 pas sans personne.
Un Néerlandais sur cinq est d'origine immigrée. Telles sont les conclusions d'un rapport scientifique commandé par le gouvernement aux Pays-Bas. Un melting pot mondial, mais aussi très européen, qu'il faut désormais prendre en compte dans toutes les politiques locales, conseille le rapport. À Amsterdam, Antoine Moutot.
En 40 ans, la provenance des groupes de la population d'origine immigrée a fortement changé. Auparavant, de grands groupes de migrants venaient d'un petit nombre de pays et de régions comme la Turquie, le Maroc, le Suriname et les Antilles. Désormais, ils viennent aussi de Pologne, de Syrie, des pays de l'ancienne Union soviétique, de Bulgarie, de Chine, d'Inde et d'Allemagne. Seulement, voilà, le territoire néerlandais présente d'importantes disparités. Par exemple, dans le petit port de pêche d'Urk, dans le Flevoland, il n'y a pas un seul habitant d'origine immigrée. En revanche, la commune agricole de Westland, en Hollande méridionale, connaît, elle, une très forte concentration d'habitants d'origine polonaise et bulgare. Dans les grandes villes comme Amsterdam, Rotterdam et La Haye, la majorité des habitants ont des origines immigrées. Le conseil scientifique derrière cette étude demande désormais au gouvernement et aux communes de prendre toutes ces données en compte pour éviter à l'avenir ségrégation et tensions entre communautés dans certains quartiers, mais aussi pour permettre une meilleure intégration et une cohésion sociale réussie. Selon lui, la politique en faveur de la diversité et de l'égalité des chances ne prendrait pas assez en compte les groupes d'origine immigrée les plus récents. Il encourage également les autorités à adapter davantage les institutions à la diversité et à traiter les différents groupes de façon équitable.
Alors que la Grèce s'apprête à sortir le mois prochain du plan d'aide européen, la croissance est de retour, plus 2,4% pour le premier trimestre de cette année. Une croissance qui doit beaucoup au tourisme. Pour en parler, on retrouve Charlotte Stivenard à Athènes. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Chaque année marque un nouveau record. 32 millions de touristes devraient venir passer leurs vacances cet été en Grèce.
Oui, la Grèce pourrait accueillir cette année près de 3 fois sa population. On parle beaucoup des aspects positifs du tourisme pour ce pays qui tente de sortir de la crise. Selon l'association des entreprises grecques de ce secteur, il pèse entre 23 et 27% du produit intérieur brut. Et ces dernières années, il n'a cessé de grossir. Une des explications avancées, c'est que les touristes qui se rendaient habituellement en Turquie ou en Égypte, par exemple, se sont tournés vers ce pays jugé plus stable.
Avec un avantage conséquent pour les Grecs, cela crée du travail.
Oui, tout à fait. Selon le ministère grec du tourisme, 8 emplois sur 10 créés l'année dernière l'ont été dans le secteur du tourisme. Il y a 2 ans, en période touristique, ils étaient 381 000 personnes à travailler dans ce secteur. Et l'année dernière, ils étaient 20 000 de plus et cela ne cesse d'augmenter.
Plus de travail donc, mais on parle aussi beaucoup des conséquences négatives.
En effet, particulièrement sur certaines îles qui connaissent un succès planétaire, on peut citer Santorin par exemple, connu pour son sol volcanique sombre qui tranche avec les magnifiques couchers de soleil que viennent admirer les touristes du monde entier. Mais le bonheur des touristes ne fait pas le bonheur de tous, notamment pas celui des jeunes enseignants grecs affectés sur cette île. En septembre dernier, ils avaient alerté l'opinion publique sur le fait qu'ils n'arrivaient pas à trouver de logement avec des loyers autour de 750 euros mensuels pour un salaire de 800 euros. Et dans Athènes aussi, l'explosion des Airbnb, cette plateforme de location d'appartements de particulier à particulier, a elle aussi rendu difficile la recherche d'appartements dans le centre-ville. Beaucoup de propriétaires préfèrent accueillir des touristes pour 40 euros la nuit plutôt que de louer pour 350 euros le mois. Enfin, il y a des craintes également par rapport au poids écologique d'un tel afflux s'il n'est pas géré correctement.
Et certains élus ont donc décidé de prendre des mesures, Charlotte.
Oui, c'est le cas du maire de Santorin. Dépassé par les arrivées de bateaux de croisière depuis janvier, Nicolas Doros a décidé de limiter le nombre de visiteurs à 8 000 par jour, contre près de 12 000 l'année dernière. Il a également réussi à trouver des logements pour les enseignants après une campagne appelée « Adopte un enseignant » lancée auprès de la population locale. Il demande désormais au gouvernement d'agir en construisant par exemple des logements de fonction. Mais pour s'attaquer au problème des Airbnb, l'État a choisi une autre solution. Il a décidé de taxer les revenus ici de ses locations jusqu'à hauteur de 45% selon le journal grec conservateur Ikas Meleni, une mesure qui pourrait limiter la progression de ce phénomène en Grèce, même si en réalité difficile d'effectuer des contrôles sans une liste des membres du réseau que la plateforme refuse de fournir.
Merci Charlotte Stivenard à Athènes, à très bientôt. Des voitures et des poids lourds moins polluants, une redevance pour les utilisateurs de la route et une application du principe pollueur-payeur. Ce sont les dernières propositions de la Commission européenne en matière d'environnement et de transport. Il s'agit de répondre aux défis du réchauffement climatique et de la pollution de l'air. À Bruxelles, Lakshmi Lotha.
Utiliser une autoroute pourrait bientôt devenir systématiquement payant au sein de l'Union européenne. La Commission Transport du Parlement a en tout cas adopté la réforme dite de l'Eurovignette. avec deux principes phares, utilisateur-payeur et pollueur-payeur. Explication Christine Revaud-Dallon-Bonnefoy, eurodéputée socialiste.
Utilisateur-payeur, ça veut dire qu'on paye en fonction de la distance qu'on parcourt sur une route. Et pollueur-payeur, on paye en fonction du niveau de pollution du véhicule qu'on conduit. Jusqu'à présent, le système qui était le plus largement répandu en Europe, c'est le système de la vignette. C'est-à-dire qu'on paye, mais quel que soit le nombre de kilomètres, ce qui compte, c'est à la durée. Ça peut être une vignette à la semaine, une vignette à l'année, mais en réalité, on ne tient pas compte de la façon dont on peut endommager la route en l'utilisant. Et puis surtout, quand on roule, ben, on pollue d'une certaine manière et ce n'était pas pris en compte. Donc là, on prend beaucoup plus en compte cette question de la distance parcourue, utilisateur-payeur, et de la pollution émise, pollueur-payeur.
Le texte prévoit une mise en place en 2023 pour les poids lourds et en 2026 pour les autres véhicules. Pour entrer en vigueur cependant, cette réforme fera l'objet de débats entre la Commission, le Parlement et le Conseil, c'est-à-dire les États membres. Il faudra convaincre certains pays. Christine Revaud-Dallon-Bonnefoy.
Une fois qu'il n'y aura plus ce système de vignette, on le remplace par un système de péage, ce qu'on connaît très bien en France puisqu'on a déjà des péages autoroutiers, mais ce que beaucoup de nos pays voisins ne connaissent pas. Donc pour nous c'était une évidence que tous les véhicules, que ce soit des véhicules légers, des poids lourds, soient concernés par des péages, mais dans beaucoup de pays c'était pas le cas. Donc ça, ce sera le cas. Bah, par exemple, en Allemagne et en Autriche, où vous avez là, pour le coup, la redevance liée à la pollution, mais vous n'avez pas de redevance pour les véhicules légers.
Aujourd'hui, 26 000 km d'autoroutes sont couverts par un péage au sein de l'Union européenne. 130 000 km de réseau seront concernés à terme. L'eurodéputé espère que les débats iront dans le sens de l'ambition du Parlement européen.
Il le faudrait, ou alors ça veut dire que ce qu'on a adopté dans la signature des accords de Paris, dans les grands principes d'utilisateur-payeur et pollueur-payeur qui là sont acceptés par tout le monde, ben finalement on met les principes de côté et on s'en réjouit. Et puis après, quand on doit passer aux actions concrètes pour effectivement diminuer la pollution, il n'y a plus personne.
En novembre dernier, la Commission a commencé à présenter ses propositions pour la mobilité propre. Pour les véhicules légers, une réduction des émissions de CO2 de 30% d'ici 2030, mais sans obligation de quota de véhicules électriques ou hybrides. L'exécutif a annoncé la couleur pour les poids lourds en mai, moins 15% d'émissions de CO2 pour les camions d'ici 2025. Pour Julia Poliskanova de l'ONG Transport et Environnement, ce n'est pas suffisant. Les constructeurs automobiles font preuve de mauvaise volonté, selon elle.
On pense que les constructeurs essayent exprès de limiter cette offre parce que, premièrement, ils voudraient continuer de vendre les véhicules diesel qu'ils ont investi ici en Europe. Et deuxièmement, ils ne sont pas préparés pour cette augmentation de demande de consommateurs. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment réguler, obliger les constructeurs de vendre les véhicules électriques pour ceux qui sont sérieux de vraiment accélérer la transition vers les véhicules électriques et véhicules zéro émission.
Pour Dimitri Vergne, membre du BEUC, l'Association européenne des consommateurs, il faudrait en effet pouvoir faire confiance aux constructeurs concernant ces émissions de CO2. Il propose un dispositif en conditions réelles.
Inclure un test en conditions réelles pour les émissions de CO2. Parce que pour l'instant, il y a un vrai fossé entre ce qui est annoncé par les constructeurs en matière de consommation de carburant et ce qui arrive dans la réalité. En moyenne, on a une différence de 40%. Donc c'est-à-dire que les consommateurs dépensent beaucoup plus que ce qui leur est promis sur le papier.
Mais un tel test prendra des années à être mis en place, a convenu un porte-parole de la Commission européenne. Cela n'est pas possible, cela n'arrivera pas du jour au lendemain, a-t-il conclu.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission, Accent d'Europe, et sur les réseaux sociaux. À demain.